Un grand bonsoir à toutes et à tous en ce 11 juillet. Quel plaisir de vous retrouver. J'espère que vous passez une bonne soirée. Peut-être êtes-vous en vacances. Eh bien, profitez-en bien. Tech & Co est toujours là jusqu'à la fin de la semaine. Votre rendez-vous dédié à la tech, 20h, 22h, à la radio, à la télé, en direct, bien sûr. Avec au sommaire pour ces 2 heures de tech. Évidemment, on reviendra sur le coup de tonnerre de ce week-end. Elon Musk qui jette l'éponge et n'achète plus Twitter. On va en parler tout au long de ces 2 heures avec notamment Frédéric Simotel et Sabrina Cagliozzi. On découvrira aussi peut-être le PC de demain, un PC éco-responsable. Tous les constructeurs s'y mettent, notamment Dell avec un prototype qui s'appelle Luna, qu'on découvrira ce soir. Et puis notre rendez-vous Station F en ce lundi soir. 2 startups que l'on découvrira et qui sont dédiées à la VR et à l'AR. Le compte Twitter de Tech & Co qui vous attend. La rediff de cette émission à partir de 22h sur la chaîne Tech & Co, sur les box opérateurs et puis en replay, bien évidemment. Merci d'être avec nous et bonne soirée.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
L'actualité de ce jour, pour débuter, c'est avec Frédéric Simotel. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir François.
Alors, on va commencer par ce coup de tonnerre tombé ce week-end. Ça y est, Elon Musk jette l'éponge et annonce, voilà, il y a eu des annonces en ce sens, annonce donc officiellement sortir de ce rachat de Twitter.
Oui, il a demandé sans cesse des comptes hein, à Twitter, notamment sur les robots. On sait, c'est ces machines qui tournent pour ajouter des faux comptes, alors des comptes qui existent, hein, qui sont créés, mais qui derrière, il n'y a pas des personnes physiques humaines, et donc voilà, ça peut faire balancer. On découvre que certains influenceurs ont ça peut s'acheter en plus, on peut acheter de l'audience comme ça et faire grimper leur audience, et puis derrière avoir de la publicité, enfin tout ce que ça engage. Elon Musk avait dès qu'il avait donné lorsqu'il a donné le prix de 44 milliards, il avait demandé à ce que il ait accès à savoir le nombre de robots, de faux comptes qui existaient chez Twitter. On lui a répondu que c'était sur les 260 millions de comptes, c'était un peu moins de 5%. Or il s'avère que on va dire que dans le landerneau des réseaux sociaux, tout le monde sait qu'on est bien loin des 5%. Ça peut monter à 20, 30%, mais du coup, ça baisse la valorisation de Twitter. Il y a même des fois sur des comptes, il y a des comptes qui sont propulsés par des bros jusqu'à 70% de faux comptes. Donc voilà, en plus, faut voir quels sont les curseurs. C'est-à-dire, non seulement il faut repérer les robots sur l'ensemble de
qui poste automatiquement sans âme humaine derrière.
Il faut presque aller compte par compte des influenceurs, des comptes, et voir à quel niveau ces robots montent dans l'audience, parce que c'est eux qui ensuite monétisent tout ça. Et donc là, Elon Musk, il en a eu un peu marre. Il a dit, écoutez, moi, vous refusez d'ouvrir le capot. Moi, j'arrête tout, je m'en vais. Alors, Twitter va pas se laisser faire. Twitter a fait appel à un gros cabinet d'avocats qui est spécialisé un peu dans ces guerres d'usure, parce qu'il compte bien faire payer Elon Musk les 44 milliards.
Parce qu'il y aura sans doute une somme de dédommagement.
Oui, il y aura une somme de dédommagement. Mais si tout continue, à mon avis, c'est plutôt Twitter. Moi, j'ai toujours dit, je pense que Elon Musk, il a dans la tête de racheter Twitter. C'est plutôt Twitter qui s'est perdant dans l'affaire, parce que la valorisation, certains disent la valorisation, elle doit encore baisser de 35 à 60% de ce que ça vaut aujourd'hui.
Donc, on est loin des 44 milliards.
Alors, certes, Elon Musk pourrait sortir 1 milliard pour dédommager, mais ce serait bien loin de tout ça. Mais je vois pas Elon Musk sortir. Encore une fois, je pense que.
Tu penses que c'est encore un petit coup de bluff?
Non, pas un coup de bluff, mais il veut que le prix baisse. Il veut en avoir pour son argent.
On en parlera longuement tout à l'heure, durant le débrief de l'actualité. L'actualité tech, ce sera entre 21h et 21h30, mais aussi avec Sabrina Cagliozzi tout à l'heure. Autre actualité plus franco-française, quoique pas tout à fait, puisqu'elle mêle à la fois Emmanuel Macron sous l'ère de sa carrière de ministre de l'économie, là on est au milieu des années 2010, et Uber, puisque rappelons-le, Uber est arrivé en France en cette période, on va dire 2015-2016, avec toutes les difficultés dont on se souvient.
La légende dit même que Travis Kalanick, c'était à la sortie d'un événement parisien qui s'appelait le Web, où il était dans le nord de Paris, il n'a pas trouvé de taxi, et puis il a eu l'idée de se dire, mais tiens, pourquoi on ne pourrait pas commander des gens autres que des taxis qui pourraient nous transporter. Donc est né le VTR. La légende dit que c'est né à Paris. Dans cette affaire, donc on reproche plusieurs choses, mais en gros, on est typiquement dans une affaire de lobbying, et ça, ce qui est un peu agaçant, c'est on a l'impression que certains journalistes découvrent ce que c'est que le lobbying. Parce que là, qu'est-ce qu'on voit? On ne sait pas trop dans cette affaire. Alors, est-ce qu'on dénonce les pratiques à la limite du légal de Uber? Est-ce qu'on dénonce Emmanuel Macron qui s'est impliqué dans l'implantation de Uber? Est-ce qu'on dénonce le rôle des lobbyistes auprès des politiques? Ou est-ce qu'on dénonce aussi un mouvement qui était là pour casser le monopole des taxis? Alors, les révélations de cette enquête, en fait, ils disent comment fonctionnent des cabinets, des institutions de lobbying. Uber a commandé des études auprès d'économistes, auprès de chercheurs. Alors, des études qu'on peut contester si on veut, enfin, qui peuvent diviser de milliers. Mine de rien, il y a quand même eu des études qui ont été faites. Et ceux qui ont participé à ces études, les chercheurs, les économistes, le disent clairement, nous, transparence sur le sourcing des data, transparence sur le fait que ça a été financé par Uber. Après, les conclusions, voilà, elles épousent. Et puis
mais ce qu'on reproche, c'est que, en fait, le gouvernement, à l'époque, aurait suivi de manière quasi automatique les recommandations d'Uber. Et c'est ça qui est un peu montré du doigt, en fait.
Mais justement, c'est ça. On le voit dans tous les domaines. On voit des actions de lobbying dans les télécoms, dans l'alimentation, dans la transition énergétique. Dans tous les domaines, ça existe. Et là, le rôle d'Emmanuel Macron, on peut le déplorer, qu'il n'y ait pas cette étanchéité entre le monde des entreprises et des politiques. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, on a un Uber qui va pousser, qui va faire comme avec ses lobbyistes, qui va essayer de taper à toutes les portes essayer d'influencer des lois, pour essayer de se montrer.
De convaincre aussi, tout simplement.
Et de fournir des arguments. Aujourd'hui, on a des arguments, même nous, dans la tech, on sait qu'il y a certains arguments présentés par des ministres ou des parlementaires qui sont largement poussés par des fournisseurs. Et c'est vrai qu'un politique, ce qu'espérait un Uber, c'est on parle innovation, on parle nouveau business model, on parle création d'emplois, ça fait bouger les politiques, donc ça fait bouger Emmanuel Macron. Au final, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir que l'entreprise américaine, donc Uber en l'occurrence, a obtenu, qu'est-ce qu'ils ont obtenu de toutes ces opérations d'influence tous azimuts? En fait, malgré des crises à répétition, ils se sont quand même développés en France. Ils ont développé un service de VTC qui a répondu à des besoins. Ils ont créé de l'emploi. Ils ont même créé une vocation pour d'autres entreprises qui sont mises. Ils ont aussi permis de faire une officialisation. Il y a une officialisation du statut de chauffeur de VTC. Quand on va voir toutes ces avancées. Enfin, c'est pas Uber qui l'a fait, mais ça a enclenché tout ça. Les taxis ont été mieux protégés. Faut quand même le dire. Les taxis, ils peuvent circuler. Ils ont eu certains avantages aussi.
Oui, et puis ça a bousculé aussi le secteur du taxi, mine de rien, qui était, on va dire, un peu endormi. Il y a eu quand même un avant et après du secteur des taxis avec l'arrivée d'Uber.
Exactement.
Il y a eu une montée de service, il y a eu une clarté aussi des tarifs des taxis qui n'était pas le cas avant. Donc, il n'y a pas que des aspects négatifs à cette histoire-là.
Est-ce qu'il y a eu une libéralisation totale du marché du travail? Non. Il y a quand même eu des garde-fous qui ont été montés. Et puis, j'ajouterai juste une dernière chose, c'est que dans les grandes agglomérations aujourd'hui, où vous soyez, on manque toujours de taxis et de VTC.
Exactement. Dans l'actualité aussi, dans le cadre de Choose France que vous avez pu suivre tout au long de la journée sur BFM Business, ST Micro et Global Foundries ont annoncé donc un projet d'usine commune à Crolles, près de Grenoble. Cette usine fabriquera notamment des puces en technologie FDSOI. L'investissement est conséquent. On écoute un petit bout de l'interview réalisée par Thomas Asportas de Jean-Marc Chéry, qui est président du directoire de ST Micro, et on revient pour commenter tout ça, Frédéric.
On devrait pouvoir rentrer les premiers équipements à partir de 2023. Et puis elle va croître donc très vite pour atteindre ses capacités maximales d'ici 2026. Ce projet fait partie de notre ambition de 20 milliards et plus. Le marché global des semi-conducteurs d'ici 2030 fera plus d'un trillion de dollars de total. Donc notre ambition, elle ne s'arrêtera pas à 20 milliards, ça c'est sûr. Donc comme notre ambition ne s'arrêtera pas à 20 milliards, et comme notre modèle opérationnel, c'est un modèle intégré principalement, donc avec des usines, potentiellement il y aura d'autres projets de ce type. On fait pas des usines pour faire des usines. On fait des usines parce qu'il y a un marché, parce qu'il y a une ambition de croissance, parce qu'il y a des compétences, il y a des vraies compétences. Et effectivement, tout ça s'inscrit dans une cohérence. Donc c'est ça qui fait que derrière, il y a une usine qui naît. Mais encore une fois, c'est parce que ST a une ambition et un modèle intégré.
Voilà, modèle intégré. Puis derrière, c'est pour créer tout cet écosystème, parce que qui va fournir, pour qui vont aller ces semi-conducteurs? C'est l'automobile, tout ce qui est les objets connectés, l'IoT, sont les infrastructures de communication. Donc vraiment, il faut se satisfaire de tout ça.
Très bonne nouvelle.
Et qu'on espère que derrière, ça va développer tout l'écosystème, parce que c'est ça qui va être important. C'est pas tout d'avoir les usines, il faut avoir les clients, pas trop loin non plus.
Avec un investissement, on l'a pas dit, de plus de 5 milliards d'euros.
C'est conséquent
quand même. Frédéric, merci. Juste un mot, invité exceptionnel demain dans Tech & Co, nous recevrons Philippe Kerrière, qui est le directeur général adjoint de Thales, en charge de la stratégie, recherche et technologie. Ce sera entre 20h10 et 20h30, et avec lui, on reviendra sur cette annonce étonnante, cette association entre Ericsson, Qualcomm et Thales, qui vont lancer la 5G dans l'espace, oui, Fred.
C'est une très grosse annonce. Si ça marche, voilà, c'est une petite brève qui passe aujourd'hui, oui, comme ça, mais on veut dire
qui va révolutionner, en fait, la connectivité 5G. De l'humain, en quelque sorte. Partout sur la Terre, un peu comme Starlink, mais vous allez voir, encore plus impressionnant. On en parlera demain.
Et les rôles sont bien partagés entre Qualcomm, Thales, Ericsson, donc...
Voilà, intéressant.
On va voir ce que ça va donner face à Starlink, face à d'autres projets de ce type.
En effet, donc 20h10, 20h30, on reviendra sur ce beau projet. Puis vous restez avec nous dans un instant, la suite de Tech & Co. On parlera de ce concept Luna, cet ordinateur portable réparable qui est imaginé par Dell. On en parle avec le porte-parole de Dell qui me rejoint sur ce plateau. À tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Voilà, le PC de demain, à quoi va-t-il ressembler ? Ben évidemment, forcément, toujours plus puissant. Mais vous allez voir aussi, repenser pour être de plus en plus éco-responsable. C'est une vraie tendance chez tous les constructeurs de PC. Et on va en parler avec mon invité, Karim Belabchi.
Oui.
Pardon. Bonsoir, Karim.
Bonsoir.
Vous êtes directeur technique solutions clients chez Dell Technologies.
Tout à fait.
Et vous êtes venu avec une exclusivité ce soir sur le plateau de Tech & Co.
Petite exclusivité, effectivement.
Et franchement, merci parce que... vous avez peut-être là dans cette petite pochette qui est devant vous, peut-être le PC de demain, un PC qui sera beaucoup plus éco-responsable, sans évidemment revenir sur la puissance, le confort, etc. Ouais. Vous allez nous parler donc de ce concept Luna.
Oui.
De quoi s'agit-il ?
En fait, si on revient un tout petit peu sur l'origine de concept Luna, on observe plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est de se dire qu'il y a une demande colossal en composants électroniques. Il y a de l'électronique partout, donc on voit qu'on ne peut pas satisfaire le marché. Il faut composer avec moins de composants.
Surtout en ce moment.
Et tout à fait, le contexte Covid a accéléré cette pénurie. Deuxième constat, c'est que plus on consomme d'électronique, plus on crée d'impact carbone et plus on crée aussi de déchets électroniques. Donc le concept Luna, c'est de se poser la question, et si on arrivait à concevoir une solution technique qui permet d'avoir un produit réutilisable le plus longtemps possible en réduisant son impact carbone.
Donc, c'est-à-dire, pour qu'on comprenne bien, ce PC, je l'achète, il a été conçu pour être évolutif, en quelque sorte.
Oui.
C'est ça, plus évolutif en tout cas que les modèles qui sont aujourd'hui disponibles, qui sont avec ce design de plus en plus fin, de plus en plus compliqué à être démontable. Là, c'est l'inverse.
En fait, si on résumait Luna en trois mots, on dirait que la philosophie de Luna, c'est de réduire, réutiliser et recréer. Donc effectivement, dans les trois termes, réduire quoi ? Réduire la consommation énergétique nécessaire pour le faire fonctionner, réduire la consommation énergétique nécessaire pour le produire et réduire l'ensemble des composants. On a supprimé 425 composants, on a divisé le nombre de vis par 10, on a réduit la carte mère de 75%. L'idée, c'est de se dire que si on concevait Luna, on réduirait son impact carbone de 50%.
Bon, Karim, montrez-le-nous, parce que là, il est caché dans sa petite chaussette. Là, franchement, depuis tout à l'heure, on salive.
Allez.
Même Adrien, notre invité qui n'a pas encore pu prendre la parole, se pose la question.
Présente, tout à fait.
Hop. Alors voilà, donc ça, c'est le concept Luna.
Tout à fait.
Qui est donc... Enfin, j'ai l'impression qu'en plus, il n'y a pas de volonté de faire un PC moins beau,
exactement,
moins fin et moins sexy, en quelque sorte.
Non.
Il a l'air très beau, ce PC.
Exactement. On garde la philosophie d'un produit qui doit apporter cette aspiration parce que les utilisateurs cherchent, comme vous le disiez, un portable fin, léger, avec une certaine élégance. Donc, il faut qu'on garde cet ADN-là. On ne va pas faire un sous-produit, bien évidemment, mais on doit aussi l'inscrire dans... les éléments qui sont valorisés aujourd'hui et la valorisation d'un concept qui permet d'avoir quelque chose qui est responsable. Comme vous le disiez, un produit de conception durable et responsable.
Donc, ce qui est important, c'est l'empreinte carbone de tous ces produits. Vous savez que voilà, tout ce qu'on fabrique a une empreinte carbone. Là, vous estimez qu'avec ce PC-là, vous allez pouvoir réduire l'empreinte carbone de 50%.
50% ne serait-ce qu'à la conception de la machine.
Et c'est énorme.
C'est très important. Donc là, effectivement, c'est une grande avancée. Et le deuxième paramètre...
Mais ça veut dire que vous êtes obligé de repenser des usines ou pas ?
Pas forcément. En fait, on repense la machine.
La chaîne de production ?
Oui.
D'accord.
Donc, on va revenir sur des choses extrêmement basiques. On aura les composants primaires, donc la batterie, le système électrique, l'écran et la carte mère. Finalement, on revient sur des choses très standards en supprimant 425 composants de l'ensemble de la machine. Et c'était un petit peu mon introduction, faire finalement un système avec moins de composants.
Moins de vis ?
Moins de vis, 10 fois moins.
10 fois moins de vis ?
Exactement. Que 4 vis de maintenance, 2 pour la trappe d'en bas, 2 pour la trappe d'en haut. Donc l'idée, c'est effectivement d'accélérer la réparabilité.
On va... Moins de colle aussi, moins d'adhésifs pour qu'ils soient facilement démontables.
Exactement. Et c'est ça, c'est une très bonne remarque. J'ai envie de dire que réutilisable et réparable, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire que si on ne rend pas réparables nos machines, on ne motive pas l'usage et le long de nos équipements.
C'est-à-dire que par exemple, je garde ce PC 3 ans, oui. La batterie commence à montrer des signes de faiblesse.
Oui.
Je vais pouvoir la changer moi-même et acheter une nouvelle batterie et la remplacer.
C'est vraiment l'objectif, qu'un utilisateur final qui n'est pas du tout initié à l'informatique puisse commander lui-même sa pièce détachée sur le site de Dell et par une vis, parce qu'on a les mêmes vis, donc par un système de deux vis, va retirer le clavier très simplement et accéder à la batterie et la remplacer.
D'accord. Donc, est-ce qu'on pourra aussi le booster, par exemple, si, je ne sais pas moi, l'évolution fait que je veux rajouter de la mémoire, changer le processeur, etc. Je pourrais faire ça aussi.
C'est une possibilité qu'on est en train d'instruire. La carte mère est derrière l'écran et effectivement, c'est une toute petite carte qui est réduite de 75% en fibre de lin pour continuer à adresser tous ces éléments éco-responsables. Et on pourra envisager demain de la faire évoluer.
Ça sort quand ? Parce que franchement, ça donne envie.
C'est
vraiment.
La question.
Est-ce que vous en êtes où dans ce projet ? C'est un projet qui est en phase de finalisation où en êtes-vous dans la réflexion ?
On a deux étapes. La première, c'est que l'ensemble des solutions technologiques qui sont autour de cette machine sont déjà utilisées sur des équipements. Si je prends l'aluminium faible carbone, on l'a déjà intégré dans le nouvel XPS 13 sorti cette année. Mais en l'état, Concept Luna, si on intégrait l'ensemble des technologies, c'est un horizon de quelques années. Mais quand on voit l'engouement depuis qu'on a présenté au CES cet équipement de l'ensemble du marché, on pourrait accélérer.
Est-ce que qui dit éco-responsable dit appareil plus cher aussi ?
Pas nécessairement. On pourrait imaginer, avec toute la réduction de l'ensemble des composants, un prix d'appel qui ne soit pas supérieur ou équivalent peut-être à un XPS 13 ou une gamme équivalente.
Et tout aussi puissant qu'un XPS 13, parce que est-ce qu'en réduisant la carte mère, en mettant moins d'électronique finalement, on se retrouve avec la même puissance qu'un PC d'aujourd'hui ?
Alors, c'est toute la R&D qu'on est en train de mener aujourd'hui, l'équilibre entre la puissance et toute cette partie de recyclabilité, réparabilité. Mais l'idée quand même, c'est que ce ne soit pas un sous-produit, que ce soit une machine suffisante en termes de performance.
Voilà, il est là sur le plateau. Hein. Oui. C'est la première fois qu'on... Alors, on voit des images depuis un moment. Mais là, merci de l'avoir apporté.
Avec grand plaisir.
Pour l'une des premières fois sur le plateau Tech & Co, ce PC qui préfigure peut-être ce que sera l'informatique de demain. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Karim Belblabchi. Merci, avec directeur plaisir. Technique Solutions Clients chez Dell Technologies. Adrien Sadaka, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes cofondateur de Timescope.
Tout à fait.
Alors, on change carrément d'univers, hein, puisque là, on n'est pas dans le recyclé avec vous. Timescope, c'est une start-up très sympa qui fabrique des bornes, en fait, pour le tourisme. Hein. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites rapidement ?
Oui, bien sûr. Merci de l'invitation, tout d'abord. Nous, notre métier chez Timescope, c'est d'aider des villes, des territoires et des lieux culturels à mieux valoriser leur patrimoine grâce au digital et aux technologies immersives.
D'accord.
Donc, dans ce cadre-là, du coup, ce qu'on développe concrètement, ce sont des expériences in situ de voyage dans le temps, qui permettent aux lieux et aux territoires d'être attractifs, d'attirer des publics et d'améliorer la qualité de l'expérience, notamment à travers ces systèmes de bornes dont vous parlez, qui sont une des solutions qu'on propose, une des solutions phares qu'on propose, qui permet au public de voyager dans le temps et de voir à travers les yeux de quelqu'un qui aurait été là quelques années en arrière.
Alors juste un mot, expliquez-nous comment fonctionne cette borne, comment vous l'imaginez, elle existe déjà cette borne ?
Ah oui, on en a installé une centaine.
Ouais, d'accord. Ouais. Alors donc j'arrive devant un monument, un musée, avec un attrait touristique, j'ai cette borne, qu'est-ce qui se passe ?
Par exemple, vous êtes, mettons, en haut de l'Arc de Triomphe et en fait vous téléportez dans le passé et vous vous retrouvez à assister au retour des cendres de Napoléon, comme si vous y étiez. Je vous parle d'une expérience qui est disponible in situ, bien sûr.
D'accord. Et donc, il y a un écran qui va me projeter, en fait, ce qu'était ce lieu-là, il y a 100, 200, 300 ans, c'est ça ?
Vous avez des lunettes de réalité virtuelle qui sont intégrées à la machine et qui permettent de tout simplement entrer en lien avec le passé. Donc, c'est un petit peu comme une machine télescopique qu'on retrouve sur les lieux touristiques, sauf qu'elle a été rénovée.
Elle a été rénovée.
Et remise.
Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet peut-être à tous ceux, même qui sont réfractaires un peu à l'histoire, de se plonger de manière sympathique, un peu gamifiée. Finalement de se replonger dans des grands moments de notre histoire.
Exactement, l'idée c'est vraiment d'aider à révéler l'histoire et la rendre accessible.
Alors, très sympa, TimesCop. Vous reviendrez nous en parler plus longuement.
Avec plaisir.
Un de ces soirs, peut-être à la rentrée. Mais vous n'êtes pas là pour ça ce soir. Vous êtes là parce que avec d'autres startups et notamment grâce à eh bien la fondatrice de Roomba qu'on connaît bien ici, Justine Bas, ouais, qui vient de temps en temps dans Tech & Co. Eh bien, vous allez publier eh bien une tribune signée par ce collectif de startups qui s'appelle Gouvernail. Et durant cette tribune, le cœur de cette tribune, c'est de mettre en avant les capacités de ces startups à aller chercher des marchés, des financements dans les marchés publics. C'est ça?
Voilà, effectivement. Gouvernail, c'est la première fédération de start-up GovTech en Europe. Concrètement, GovTech, ce sont des entreprises qui ont en commun de développer des solutions au service de l'intérêt général.
D'accord. Alors, qu'est-ce que vous revendiquez durant cette tribune? Qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas?
Bon, en fait, il y a beaucoup de choses qui vont déjà. Nos entreprises existent, elles évoluent dans leurs écosystèmes, elles fonctionnent très bien dans des domaines variés, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la culture, elles créent des emplois, elles innovent.
Voilà, ça, avec aussi des impulsions données par le gouvernement depuis toutes ces années qui sont plutôt positives.
Exactement, et des signaux très positifs qu'on reconnaît tout à fait. En se rencontrant, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait d'une part envie d'aller plus loin dans le développement de nos entreprises, envie de contribuer de façon plus forte aux grands défis de demain, et que malheureusement il y avait encore certains freins dans notre développement qui faisaient qu'aujourd'hui on n'est pas aussi loin que ce qu'on pourrait être, ouais, si on travaillait avec le secteur privé.
Alors voilà, c'est là où le bât blesse, c'est que vous estimez que 69% des startups ont du mal à travailler avec le secteur public si on compare ça avec le secteur privé. C'est ça?
Ouais, voilà, tout à fait. Bon, ça, c'est des études qui viennent pas de nous, mais ouais, en tout cas qu'on met en avant. Aujourd'hui, effectivement, c'est plus difficile de travailler avec le secteur public parce que il y a des freins, notamment dans l'accès au marché public.
Mmh. Et à des appels d'offres, des choses comme
ça. Des appels d'offres qui sont complexes, qui nécessitent énormément de ressources pour pouvoir y répondre, qui sont parfois très cadré, ouais, et qui laissent peu de place à l'innovation. Et en fait, le signal qu'on a envie d'envoyer, c'est de dire: on est là, voilà, les GovTech contribuent très positivement à l'écosystème général et positivement à la société. Donc déjà, se faire davantage connaître, et puis aussi être un partenaire constructif pour faire avancer, faire bouger les choses et créer davantage de valeur économique et sociale.
Donc, vous développez toute une série de solutions, en fait, que vous proposez. Hein. Sensibiliser et former les acteurs publics à l'intérêt de l'innovation. Voilà. Peut-être aussi, comme vous disiez, simplifier ce cadre juridique qui peut plomber un peu l'ambiance, j'allais dire. Typiquement, si on prend votre exemple, Adrien, avec TimesCop, vous passez à côté de marché, justement, public, aujourd'hui?
Très concrètement, nous, là, quasiment, la grande majorité de nos clients sont des clients publics, et effectivement, on est soumis au code des marchés publics. Donc, il peut arriver qu'aujourd'hui, on ne répond pas à des marchés en se disant on n'a pas le temps, on est trop concentré sur nos contrats actuels et donc on n'a pas le temps, on n'a pas la ressource pour répondre à des marchés et donc probablement qu'on passe, en tout cas nous on a le sentiment qu'on passe à côté d'opportunités qui sont pas vraiment dimensionnées pour nous permettre d'y répondre.
Et puis en plus c'est gagnant-gagnant parce que évidemment si les marchés publics font appel à vos services, ça va apporter de l'innovation, en fait, justement, typiquement, vous, voilà, pour la visite de lieux culturels ou historiques, mais ça va vous permettre d'accélérer, parce que cet argent-là va vous permettre de grandir.
Bien sûr, bien sûr. L'idée, c'est vraiment aussi de construire les services de demain. Et pour ça, ça implique d'être extrêmement réactif. Et notre revendication, c'est aussi de se dire qu'on est là, présent en France et en Europe, avec tous les savoir-faire et toutes les technologies, pour y contribuer de la manière la plus importante possible.
Combien de startups ont 15 startups ont signé, en fait, ce manifeste, en quelque sorte, cette
tribune? Tout à fait. Ah ouais. 15 startups qui sont à des stades de développement assez variés, mais qui ont toutes des solutions qui ont prouvé leur efficacité, leur modèle.
Et voilà, et on peut retrouver donc cette publication dans les Échos, hein, c'est ça, de
tout à fait. Ouais.
Merci beaucoup, Adrien.
Merci et beaucoup.
Je souhaite être entendu.
Merci.
Vous êtes le cofondateur de TimesCop et merci encore à Carib donc pour l'avant-première de ce PC qui préfigure ce que sera sans doute l'informatique de demain. Vous restez avec nous. Tech & Co revient dans un instant, 20h30. On retrouve le journal et on revient bien sûr pour toute l'actualité tech avec, vous le savez, en va dire, en top actu, la décision d'Elon Musk de ne plus racheter Twitter. On va en parler avec Sabrina Cagliosi. Ce sera dans une vingtaine de minutes. À tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Dans un instant, nous reviendrons sur le coup de tonnerre de ce week-end. Elon Musk jette l'éponge et ne veut plus racheter Twitter. On va en parler avec Sabrina Cagliosi. Puis ce sera aussi le thème central de notre débrief de ce lundi soir entre 21h et 21h30 avec Frédéric Simotel, entre autres, et puis une spécialiste aussi des réseaux sociaux qui nous rejoindra, qui s'appelle Asma Mala. Mais auparavant, j'accueille Andrea Ben Saïd. Bonsoir Andrea.
Bonsoir François.
Merci d'être avec nous ce soir.
Merci à vous de m'avoir invité.
Vous êtes le roi du SEO et au-delà de ça, vous êtes le président du groupe Eskimos, fondé donc en 2010. Mais pour vous, en fait, votre vrai job a commencé en 2015 parce qu'avant, vous étiez en freelance. Hein,
effectivement, je suis resté en freelance de 2010 à 2015. Donc, je pense qu'on peut dire que la vraie date de création,
c'est 2015.
C'est 2015. On a fait 150 000 euros de chiffre d'affaires en 2015. Voilà, c'était la première année où on a démarré, on va dire.
Donc, 2015, vraiment. C'était il y a 7 ans. 150 000 euros en 2015 aujourd'hui.
Aujourd'hui, on compte faire plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année.
20 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Voilà.
Pas mal.
En partant de 2000 euros et en n'ayant jamais levé de fonds.
Très bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est en fait votre job. Aujourd'hui, il y a un jeu de chat et de souris, en quelque sorte, entre Google, qui est un moteur de recherche incontournable, qui fait l'appui et le beau temps, aujourd'hui, sur le web, notamment pour toutes les boîtes qui veulent gagner de l'argent pour avoir un bon ranking. Le ranking. Tiens, expliquez-nous ce que c'est que le ranking. Je pense que vous en parlerez mieux que moi.
Oui, alors le ranking, c'est le fait de se positionner, par exemple, numéro 1 sur Google. On sait que 60% des clics sont faits en top 3. Donc concrètement, si vous n'êtes pas en top 3 sur Google, vous allez avoir très peu de clics. Mais plus largement, nous, ce qu'on fait chez Eskimos, en fait, il faut savoir qu'il y a plus de 90% des budgets dans le digital qui partent chez les GAFAM. Donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft,
TikTok,
TikTok, Snapchat, etc. également. Donc nous, on veut être la société de conseil qui se positionne entre les entreprises et les GAFAM. Parce qu'en fait, on peut pas investir non plus n'importe comment sur ces plateformes. Il y a des algorithmes qui sont assez poussés, qui sont techniques, qui sont complexes. Et donc nous, on aide les entreprises à bien investir pour avoir le meilleur, ce qu'on appelle ROI, le meilleur retour sur investissement.
Et alors, ce qui est passionnant, c'est où là votre métier, c'est de l'orfèvrerie, c'est que derrière tout ça, il y a la bataille des algos. Parce que Google change ses algorithmes tout le temps, de manière perpétuelle. Et vous arrivez à comprendre comment fonctionne tout ça pour que, en fait, à chaque fois, vous puissiez aider vos clients à remonter et à être dans ce top 3 de recherche que vous évoquiez tout à l'heure.
Exactement. En fait, il faut imaginer que Google, c'est une énorme porte blindée avec un cadenas à 100 chiffres. Eh bien, nous, chez Eskimos, 100 chiffres, peut-être 1000.
Ouais.
Eh bien, nous, chez Eskimos, on a développé une intelligence artificielle qui nous permet de décrypter systématiquement cet algorithme. Alors, ça va prendre une heure sur une requête qui va être peu tapée, peu concurrentielle, et ça peut prendre quelques jours sur des très grosses requêtes comme banque en ligne, assurance. Et donc, comment fonctionne notre outil? En fait, c'est un outil, ce qu'on appelle de rétro-engineering. C'est-à-dire que notre outil va scraper les résultats de Google. Donc, l'outil va générer, va taper une requête.
Alors, scraper, ça veut dire quoi?
Scraper, ça veut dire qu'il va, cliquer, on va dire, automatiquement sur tous les résultats de recherche.
Donc,
après,
c'est un robot qui le fait.
C'est notre robot de machine learning, donc d'intelligence artificielle. Ensuite, il va cliquer donc sur les 100 premiers résultats de Google par rapport à cette requête. Et ensuite, il va enregistrer dans notre base de données tous les critères de toutes les pages. Donc, ça va être les temps de chargement, les mots-clés, combien de fois il y a le mot-clé sur la page, quelle est la longueur des contenus sur les sites.
Et vous simulez un peu les robots Google qui font pareil,
exactement,
non?
Exactement. En fait, c'est ça. On fait du rétro-engineering. Donc, on part de ce que Google fait et on revient en arrière. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Google, avant, était un moteur de recherche et devient de plus en plus un moteur de réponse. Pourquoi un moteur de réponse? Parce qu'en fait, si demain, 1 million de personnes font la même requête, l'idée c'est que Google demain fasse 1 million de résultats différents. Parce que si, par exemple, personnaliser la réponse pour chaque personne. Je donne un exemple concret. Par exemple, si je tape chaussures blanches et vertes, et ensuite que je tape Adidas, je vais avoir potentiellement les Stan Smith qui vont ressortir. Si vous, votre dernière requête c'est Adidas, mais vous n'avez pas tapé blanc et vert avant, vous allez avoir les dernières chaussures Adidas. Pourtant, à la fin, on a tapé la même requête. Vous avez tapé Adidas, moi j'ai tapé Adidas.
D'accord.
Mais donc il faut comprendre qu'on passe d'un moteur de recherche à un moteur de réponse. Et donc, du coup, on a développé une intelligence artificielle, un outil de predictive ranking qui nous permet de savoir, dans 92% des cas, ce qu'il faut faire sur votre site, sur votre page, pour passer numéro 1 sur la requête.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut rajouter du texte.
Alors, il faut ajouter
des mots-clés. C'est quoi, en fait,
ça dépend secrets. Justement. En fait, notre outil, en fait, donc, a des centaines de critères de classement. Ils reprennent les critères que Google a dans son algorithme. Et on a un système de scoring. Par exemple, si le temps de chargement est important sur cette page, parce que c'est une page e-commerce où il faut acheter, là, on va avoir un scoring assez élevé. Et donc, du coup, ce sera un critère important pour se positionner. Et donc, ce qui est bien aussi, nous, en tant qu'agent, c'est que nous délivrons pas nos recommandations sur la base du feeling de nos consultants, mais sur la base de la donnée de nos outils maison. Aujourd'hui, on a un pôle R&D avec un CTO, 5 data scientists qui œuvrent tous les jours pour décrypter cet algorithme. Et on était à 88% de taux de réussite il y a un an, on est déjà à 92%. Le Graal, ce serait d'arriver à 100%.
C'est dingue. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes sur Google, mais vous lisez aussi sur tous les autres grands médias qui génèrent de l'audience, donc les réseaux sociaux, etc. Ils travaillent de la même manière. C'est pareil, en fait.
Exactement. En fait, on l'oublie, mais chaque réseau social est un algorithme à la base. La manière de recevoir les publicités, la manière de targeter, la manière d'investir sa publicité, c'est exactement la même chose sur Facebook, Google, etc. Sauf que les critères sont différents. Google, c'est l'algorithme le plus ancien et, à mon sens, le plus complexe. Donc, vu que nous, on avait réussi à décrypter cet algorithme-là, il a été très facile d'aller décrypter les autres.
D'accord. Voilà. Quels sont ceux qui cartonnent en ce moment, TikTok?
Alors, en ce moment, il faut savoir que sur la tranche d'âge 18-35 ans, TikTok et Snapchat a dépassé le trafic de Facebook. Donc, il faut aussi s'adapter aux nouveaux réseaux sociaux.
Facebook et Instagram? Vous dites Facebook, c'est tout le groupe? C'est tout le groupe Meta ou c'est que Facebook?
Non, je parlais de Facebook.
Il y a une Instagram est sur le côté.
Mais on peut imaginer que TikTok, à mon sens, dans les 5 prochaines années, je pense que TikTok va dépasser Instagram.
Et alors, l'algo de TikTok, vous le débloquez comme ça?
Et on les a déjà tous travaillés, tous débloqués. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un enjeu énorme. Les entreprises aujourd'hui dépensent des centaines de milliards sur Google, Amazon, Facebook, etc. Il faut des entreprises comme Eskimos pour les aider à bien dépenser et à être rentables.
Votre objectif, c'est de devenir une licorne sans lever de fonds, c'est ça ?
Exactement. En fait, on aimerait bien, chez Eskimo, devenir la première licorne 100% autofinancée. On est passé de 2000 euros d'investis à plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça fait plus de fois 120 en multiples. Ouais. Aujourd'hui, pour arriver à 1 milliard de valorisation, il faudrait qu'on atteigne à peu près 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Ce qui fait que ça nous demanderait de faire x7. Pour moi, aujourd'hui, on a fait le plus dur. On a fait x120, il nous reste x7 à faire.
Oui.
Et nous, on a une culture, on est un petit peu à l'inverse de la Startup Nation. On voit notre boîte sur 10-20 ans. Quand aujourd'hui, les jeunes veulent créer des licornes, je dis les jeunes, n'importe qui, veulent créer des licornes en 3, 4, 5 ans, c'est quelque chose qui les excite. Nous, on a des modèles plus comme Bernard Arnault, Xavier Niel, qui ont construit des empires, mais sur le long terme. Et aussi, il y a un enjeu de conservation du capital. On voudrait être la première licorne dont les fondateurs possèdent plus de 50% du capital in fine.
Très bien. Vous allez être très, très riche bientôt, alors.
C'est possible.
on vous le souhaite. Merci. Juste une petite question. Est-ce que tout ça va durer, les algos, le ranking, etc.? Est-ce que vous pensez que Google sera tout aussi efficace dans quelques années? Ou est-ce qu'il va se faire aussi bouffer par les réseaux sociaux? Comment vous imaginez l'avenir?
Alors, la qualité pour moi d'une plateforme ou d'un réseau social, c'est la qualité de son algorithme. Pourquoi? Tant que Google vous permettra d'avoir la meilleure réponse face à une requête, personne ne pourra le détrôner. Mmh. Et comme leur algorithme a 20 ans, 30 ans de machine learning et de compréhension de ses utilisateurs, notamment aussi avec Google Chrome, avec l'enregistrement de la donnée, etc., ça va être très complexe d'avoir des plateformes qui vont changer ces modèles. Mmh. Et donc, tant qu'il y aura des algorithmes performants, il y aura des monopoles de plateformes comme Google, Facebook, Amazon, etc. Donc, je pense que ça va continuer. Par contre, il va y avoir des nouvelles habitudes de consommation, des nouvelles tendances. On l'a vu avec TikTok et Snapchat. On peut imaginer demain, par exemple, un nouveau réseau social qui serait basé que sur la voix. On l'a vu avec Clubhouse à un moment donné.
Qui est vite retombé, par contre.
Mais on peut imaginer des nouveaux réseaux sociaux demain. Et nous, notre but chez Eskimos, c'est de décrypter très vite les algorithmes.
Oui, pour essayer de les craquer le plus vite possible
pour que quand ils lancent leur régie publicitaire, on puisse tout de suite amener nos clients sur ces plateformes pour avoir de meilleurs ROI.
Malin. Merci beaucoup, Andrea.
Merci à vous de m'avoir invité.
Voilà, et lorsque vous êtes licorne, vous venez sur le plateau Tech & Co nous en parler.
Avec grand plaisir.
Allez, on sabrera, je ne sais pas, alors champagne, on
peut-être
n'a pas le droit.
Un champomy. Un champomy, peut-être.
Pourquoi pas. Merci, président du groupe Eskimos, donc le roi du SEO. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Direction maintenant New York.
Tech & Co. What's up, New York?
Bonsoir, Sabrina Cagliozzi.
Bonsoir, François.
Sabrina, mais que se passe-t-il? Toute la sphère des réseaux sociaux est en émoi depuis quelques jours avec cette annonce d'Elon Musk qui jette l'éponge et qui se dit « Ok, maintenant, c'est terminé. Bah, au début, je voulais racheter Twitter. Maintenant, ça ne m'intéresse plus. » Alors forcément, tu voulais nous parler de ça ce soir.
Bah oui, l'actu, que veux-tu ? Et alors là, c'est du lourd, c'est un dossier qu'on suit depuis une éternité maintenant, que de rebondissements. Alors d'un côté, il y a Elon Musk qui dit « J'abandonne le deal ». De l'autre, il y a le président de Twitter qui contre-attaque et prévoit d'engager une action en justice pour faire respecter cet accord de rachat. Alors, difficile de prédire la suite, surtout étant donné les deux parties qui sont impliquées. Mais il y a effectivement plusieurs scénarios possibles. What's next ? Donc, le premier scénario, c'est la fin du deal, tout simplement. Hein. On arrête tout, on tourne complètement la page. Alors, en théorie, François, c'est l'option la plus simple pour tout le monde. Pas de bataille judiciaire. Elon Musk accepte de payer $1 milliard de break-up fee à Twitter et Twitter continue son chemin tout seul. Tout simplement, mais avec une valorisation bien inférieure aux 44 milliards de dollars promis par Elon Musk. Le problème, c'est que si le board laisse filer Elon Musk comme ça, tranquillement, ça peut être vu comme une violation de son devoir de placer l'intérêt des investisseurs en premier. Et de toute façon, la réponse du président de Twitter, Brett Taylor, laisse entendre que Twitter n'a pas du tout l'intention de lâcher l'affaire, surtout que le réseau social a quand même un argument légal solide avec la promesse d'Elon Musk de racheter Twitter pour $50.20 par action. Hein. On est actuellement aux alentours de $33 seulement par action, donc une sérieuse décote par rapport au prix offert et Twitter ne peut tout simplement pas accepter de laisser filer Elon Musk pour juste $1 milliard. Il a beaucoup trop perdu déjà, donc pas en position de laisser partir. Deuxième scénario, François, oui. Twitter sort gagnant de la bataille judiciaire. Et Elon Musk achète la société. Alors, il n'y a encore jamais eu de cas. Hein. En tout cas, ici aux États-Unis, on a vu un juge faire respecter un deal aussi important sur une clause de performance spécifique d'un titre. Mais il y a eu quand même de nombreux exemples où on a vu des juges tout simplement forcer les acquéreurs à finaliser un deal. C'est en 2001, par exemple, vous avez un juge de Delaware qui avait forcé Tyson Foods dans l'agroalimentaire à mettre la main sur IBP, après la signature du deal. Le titre des deux sociétés avait fortement reculé. Tyson avait essayé de se retirer du deal. Alors, ça n'avait donc pas du tout fonctionné. Tyson Food avait dû acheter au prix initialement arrêté. Alors, cette solution pourrait être la meilleure pour les investisseurs de Twitter, mais pourrait laisser Twitter et ses employés dans une situation très compliquée. Hein. Si Elon Musk ne veut vraiment plus Twitter, le forcer à mettre la main sur le réseau social pourrait le pousser à mettre de nouveaux Twitter en vente avec à la clé, bref, de nouveaux changements. Bref, pas du tout terrible, un futur très incertain pour Twitter. Troisième option, François, Twitter sort vainqueur de la bataille judiciaire et Elon Musk paye des dommages. Plutôt que de forcer un rachat de Twitter par Elon Musk, le juge pourrait décider plutôt d'imposer à Elon Musk de payer des dommages et intérêts à Twitter. Le montant serait déterminé par le juge et représenterait plusieurs milliards de dollars pour Elon Musk qui n'aurait donc pas à racheter Twitter. Option numéro 4, Elon Musk parvient à un accord avec Twitter. Dans ce cas-là, Elon Musk devra probablement payer ce milliard de dollars pour son retrait du deal. Et plusieurs autres milliards de dollars, mais ce montant serait fixé entre les deux parties. Il faudrait bien sûr que ça satisfaire les investisseurs dans ce cas-là. Option numéro 5, il y en a plusieurs, décidément. Elon Musk remporte la bataille judiciaire et ne paie pas de break-up fee. Alors dans ce cas, Elon Musk va devoir prouver que Twitter n'a pas tenu ses engagements concernant notamment le détail des faux comptes, fournissant de fausses informations, et prouver que les vraies données ont un impact négatif sur l'entreprise. Elon Musk pourrait également aller plus loin dans ses arguments, soulignant que Twitter n'a pas demandé la permission de licencier récemment plusieurs de ses employés. Numéro 6, autre scénario possible, Elon Musk change une nouvelle fois d'avis. Rappelons quand même que ce ne sera pas la première fois. Tu l'as dit en introduction, Elon Musk a accepté de joindre le board de Twitter pour ensuite refuser. Il a ensuite mis le deal en suspens et révisé les formes, les termes du deal. Donc bref, vu les nombreux remontissements déjà, on n'est pas à l'abri d'un nouveau changement d'humeur d'Elon Musk, surtout si Twitter accepte de fournir plus d'informations sur ces fameux faux comptes. Septième scénario, il y en a huit, hein, on va y aller très vite. Elon Musk et Twitter parviennent à un deal à un prix inférieur. Alors, ce nouveau rebondissement ne pourrait bien être qu'une tactique, en effet, hein, de négociation d'Elon Musk pour faire baisser le prix d'acquisition. Le marché, et tout particulièrement les valeurs tech, les valeurs médias, ont fortement reculé depuis le 25 avril, date de l'annonce du deal. Alors, par exemple, si on regarde Snap, le titre a chuté de 50% sur cette période. Ouais. Il n'est donc pas impossible que les deux parties arrivent à s'entendre sur un prix plus bas, avec une clause bien sûr de retrait encore plus élevée pour éviter qu'Elon Musk tente de nouveau sa chance. Et dernière option, François, c'est aussi la plus improbable, l'apparition d'un chevalier blanc, une autre entreprise qui pourrait se manifester et offrir moins que les $54.20 d'Elon Musk par action. Le board pourrait soutenir un tel deal qui offrirait plus de certitude qu'un passage au tribunal avec Elon Musk. Affaire à suivre donc. C'est pas fini, hein. On va encore parler du deal Elon Musk Twitter. Donc après cet énième rebondissement, bon, si on regarde en bourse, ça fait mal quand même aujourd'hui pour le titre Twitter qui chute de pratiquement 10%. Du coup, hein, clairement, on va voir comment les choses vont évoluer, mais ça va être assez compliqué pour les deux parties.
Qu'est-ce que tu imagines, toi, Sabrina, en tant qu'experte? Quel scénario tu privilégierais?
Ah, c'est difficile à dire. Alors moi, je vais te dire, avec mon background de New York Stock Exchange derrière, on va essayer d'aller satisfaire les actionnaires. Peut-être ce deal. On a une victoire de Twitter en bourse et Elon Musk qui paye des dommages et intérêts. Bon, ça c'est plutôt le côté financier, mais je me dis quand même que c'est quand même une tactique oui. d'Elon Musk qui veut faire baisser le titre. Donc c'est l'option 7 pour moi.
On est d'accord, je te rejoins. D'ailleurs, on va en parler dans un instant. Merci beaucoup Sabrina, merci pour tes éclairages.
Merci,
depuis donc New York, hein, vous le savez comme chaque soir. Et vous restez avec nous, on va poursuivre évidemment sur ce sujet. Car dans la deuxième partie de Tech & Co, on va revenir sur ce coup de tonnerre hein, dans l'actualité tech. Elon Musk qui renonce au rachat de Twitter. Est-ce que ça ne serait pas un énorme coup de bluff pour faire baisser la valeur de Twitter? On va en parler dans un instant avec nos experts. Et puis en deuxième partie de Tech & Co, ce sera notre plongée dans Station F avec deux startups spéciales VR et AR à partir de 21h40. Réalité virtuelle et AR, vous le savez, la réalité augmentée qui n'est pas la même chose. A tout de suite, il est bientôt 21h.
Tech & Co, le débrief de la tech.
Le retour de Tech & Co sur BFM Business, ça commence à papoter alors que le jingle n'est pas parti. Pour vous dire à quel point nos invités sont remontés comme des pendules, je suis ravi d'accueillir Asma Mala ce soir. Bonsoir Asma.
Bonsoir.
La première fois dans Tech & Co ce soir, merci. Absolument. J'espère qu'il y en aura d'autres.
Merci.
Vous êtes spécialiste en tech policy, comme on dit. Vous êtes enseignante à Sciences Po Paris. Vous suivez bien évidemment toute l'actualité, toute l'économie du numérique, la souveraineté, enfin tous ces sujets. Et puis Frédéric Simotel, rebonsoir Fred.
Rebonsoir.
Journaliste à BFM Business. Voilà, nos deux experts qui sont là pour débattre de cette actualité. Il y a trois jours, donc Elon Musk. Alors on s'en doutait un petit peu, ça sentait le roussi. Depuis un certain temps. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi, mais d'ailleurs, Elon Musk tweetait beaucoup moins ces derniers temps. Et puis voilà, donc c'est tombé. Il renonce à racheter Twitter. C'est quand même un séisme, hein, un séisme évidemment pour tout l'écosystème tech, parce que c'est
pour Twitter surtout.
Alors pour Twitter bien évidemment, mais aussi j'imagine pour tous ces géants d'Internet hein, qui se posent des questions et qui se disent parce que derrière tout ça il y a aussi la valorisation de toutes ces boîtes tech qui est en train de s'effondrer. Alors peut-être qu'on pourra l'évoquer, mais Asma, peut-être première question pour vous, vous vous attendiez à ce revirement de situation, à ce virage à 360 degrés fait en Tesla pour Elon Musk?
Alors, c'est très exactement ça. C'est bien un virage à 360 et non pas à 180.
C'est ça, oui. Voilà.
Absolument. Oui, on s'y attendait parfaitement. Et en fait, dès début mai, une des avocates de Twitter avait fait un très long thread sur Twitter expliquant exactement ce qui est en train de se passer, absolument comme prévu. C'est-à-dire qu'il a précisément, Musk, choisi le sujet des faucons, des bots, etc., qui est le sujet le plus complexe et le plus indémontrable d'un point de vue extrêmement technique en fait et d'un point de vue juridique pour précisément aller jusqu'au litige.
Oui, mais on... oui. Non, parce que ce qu'il faut bien expliquer sur l'histoire des robots, c'est qu'il s'agit pas, on peut pas ouvrir le capot et compter.
Absolument.
Ça c'est une vraie personne, ça c'est une fausse, c'est, ouais. c'est impossible sur les centaines de
Pourtant,
millions
il a,
de comptes.
Il a pu ouvrir le capot de Twitter, hein, il a eu accès.
Non, mais en plus,
il a eu accès à un dataset, mais c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué.
Et puis en plus, c'est pas les mêmes robots. C'est-à-dire, on dit qu'il y a à peu près 5%. Peut-être qu'il y a que 5%. Peut-être qu'il y a effectivement que 5% de faux comptes. Mais où est-ce que vont ces faux comptes? Peut-être que ces 5% de faux comptes, ils se concentrent sur les influenceurs, sur ceux qui rapportent le plus d'argent et qui se retrouvent à être à 70% poussés par des faux comptes. Et où nous, on a des comptes un peu traditionnels, on n'est pas du tout concernés par ces bots. Donc c'est un peu ça qui est compliqué, c'est de dire, tiens, tel influenceur, il faudrait aller presque tous ceux qui ont plus de 15 000, 20 000, 30 000 followers, c'est là où il faudra aller dire alors lui, il en a 20% de faux, lui, il en a 45% de faux. Enfin, c'est impossible à vérifier. Donc, c'est pour ça que le côté donnez-moi des vrais scores de faux comptes, c'est un instrument de négociation, puisque la valorisation...
Bien sûr.
En plus, certains disent que la valorisation, elle est à 35-60% trop haute. On voit en plus que toutes les valeurs tech sont en train de...
sont à la baisse.
Voilà, ça licencie dans les Silicon Valley. Enfin, voilà. On est plus dans la grande forme.
Après, sur la question des faux comptes, il y a l'argument, en effet, de dire, si on va au litige, il y avait la fameuse clause du milliard en cas de rupture du contrat. Et donc, ça lui permet de donner, en fait, un argument qui va permettre un vrai débat et de faire traîner surtout l'affaire. Mais il y a aussi un vrai sujet extrêmement rationnel qui est la question du modèle économique. C'est-à-dire, avoir 5% de faux comptes versus 20% qui est son hypothèse à lui ne lui donne pas du tout les mêmes marges de croissance et de rentabilité, de monétisation du réseau social, tel qu'il l'a annoncé au départ, c'est-à-dire
qu'il avait imaginé quand il valorisait Twitter à 44 milliards.
Ce qu'il faut voir, et ce qu'ils ont dit depuis le début ici, c'est pas une lubie. Alors oui, peut-être qu'il veut se faire un peu plaisir en achetant Twitter, mais derrière, faut pas oublier que c'est un homme d'affaires.
Et tu l'as toujours dit ça.
Lui, il est là pour gagner de l'argent.
C'est pas que sa danseuse.
Il est pas là pour une danseuse à 44 milliards, même si on est l'homme le plus riche du monde, on le fait pas. Hein. On le fait.
Non, il a un agenda.
Ouais.
Il a un agenda politique, il a un agenda économique, il a un agenda idéologique. On pourra y revenir.
Bien sûr.
Mais Twitter, c'est pas Twitter par hasard. En fait, ce qu'on voit apparaître, ce qui est très intéressant d'ailleurs sur les réseaux sociaux, c'est exactement ce qu'on voit dans les médias conventionnels, c'est-à-dire des phénomènes de concentration détenus par des hommes d'affaires très puissants, très successful, et qui ont derrière et qui s'achètent derrière des médias d'influence. Et en l'occurrence, Musk, son vrai projet, c'est la conquête de l'espace, c'est Mars, etc. Donc, il a besoin d'une zone d'influence. Politique et médiatique.
Mais ce que je comprends pas, c'est que comment ce gars-là qui est d'une intelligence extrême, enfin voilà, a-t-il pu le tomber dans le panneau? Parce que pour tous ceux qui ne comprennent pas tout ce brassage de chiffres, c'est un peu comme si vous visitiez un appart qui serait valorisé, je sais pas moi, 300 000 euros, et puis vous vous rendez compte qu'à la seconde visite, il y a par exemple des termites, d'autres trucs qui font que finalement cet appartement qui valait 300 000, il en vaut plus que 200 ou 150 000. Mais ça, franchement, lui, c'est un peu son job depuis le début. Qu'est-ce qui s'est passé? On est d'accord, c'est un peu ça.
Je pense qu'il est plus malin. Mais allez-y. Alors, j'ai deux. La première, c'est la façon dont ça s'est fait. Le deal s'est structuré très très vite. Et normalement, quand on fait de la fusée, de la fusion-acquisition, on a des due diligence en général. Où normalement, tous ces chiffres-là sont absolument établis. On a des enquêtes, etc. Et le chiffre des 5% d'ailleurs des faux comptes est un chiffre qu'on entend depuis des années. Twitter, en fait, affiche ce chiffre-là depuis
très
longtemps.
Oui, oui, oui.
Donc, le vrai sujet derrière, je pense que c'est pas tellement les 44 milliards ou quoi. Il a fait un coup et je pense que dès le départ, il avait l'intention de toute façon d'aller sur une guerre des nerfs. Et c'est exactement ce qu'il a joué sur Twitter. C'est une guerre des nerfs psychologique, un coup de poker menteur qu'il est en train de mener jusqu'au bout. Et quand on voit ses tweets d'aujourd'hui, le mec est très calme. C'est-à-dire, il rigole, il est plutôt assez cynique et je crois qu'il sait assez bien ce qu'il fait, où est-ce qu'il veut emmener Twitter et il est en train d'emmener la SEC, qui est le régulateur ou le gendarme des marchés financiers d'une part, et le conseil d'administration de Twitter d'autre part, dans une guerre d'usure.
Il pouvait, dès le départ, il ne pouvait pas dire je vais acheter Twitter 30 milliards. On lui aurait rironné, on dirait ah, attendez, la valeur c'est.
Même s'il avait expliqué que, mais, en disant moi je crois qu'il y a 15% de faux comptes, par exemple, au lieu de 5.
Oui, mais il ne pouvait pas. Le côté où il fait une proposition de rachat à 20% au-dessus du prix de l'action, c'est le marché. On se dit tiens, quelque part, il apparaît.
Mais si tu as 15% de faux comptes, ça veut dire que chaque compte qui reste coûte moins cher.
Oui, on n'en avait pas la preuve.
C'est là où on voit qu'il est dans ce côté guerre d'usure, mais les autres aussi, hein, parce que Twitter, ils ont pris un cabinet d'avocats qui est parti pour une guerre d'usure. Mais le truc, c'est justement, ils savaient qu'ils pourraient négocier, mais au départ, on ne peut pas dire, si je reprends ton exemple d'appartement, les gens ont mis l'appartement à 400 000, c'est super appartement, tu ne vas pas tout de suite dire, ok, je le prends, même si on sait que ça se fait aujourd'hui, je le prends 300 000. Les gens ont dit, ah ben non, par rapport au marché. Donc, il était obligé d'aller à un peu plus, il avait évalué ça, ce prix-là. Il s'était dit, si ça passe, finalement, ça peut être pas mal, parce qu'il a quand même. Enfin, voilà, il a la perspective, il voit les choses derrière. Mais, voilà, il attendait toujours ce côté négociation. Donc, il n'y est pas allé en aveugle, il savait bien ce qu'il faisait. Il voyait. Je pense qu'au fur et à mesure, il aurait demandé. D'ailleurs, il y en a qui sont partis, il y a plusieurs patrons de Twitter qui sont. Il aurait demandé un peu de baisser, voilà, de renégocier un peu, et il serait arrivé peut-être au 38, au 36, 38 milliards, qui était la valeur de Twitter à l'époque.
Mais Asma, est-ce que c'est pas aussi le côté ingérable d'Elon Musk qui est assez fantasque et peut claquer la porte? Enfin, on a eu pas mal de témoignages de personnes qui ont travaillé avec lui. C'est un gars qui est terrifiant dans le sens où il est. Il peut claquer les portes. Vous pouvez être son meilleur ami et le lendemain, parce que vous ne savez plus à rien, sortir de son champ d'action. Est-ce que c'est pas aussi ça, Elon Musk?
C'est aussi ça, Elon Musk. Elon Musk est un objet politique. Éminemment intéressant. Le cas Musk dépasse Musk de très largement. Oui. Et il se dépasse lui-même. Et alors deux.
C'est fort quand même.
Et deux arguments. Et d'ailleurs, ça ferait peut-être le petit lien avec une actualité du jour, celle de Uber. C'est que, enfin, j'y arrive. C'est la première chose, c'est que en fait, Musk, c'est un anarchiste. C'est le Joker de Batman. Le mec, il va jusqu'au bout. Il nargue le système. Il joue du système.
Il casse les codes.
Il a disrupté Wall Street. Ouais. Ses tweets, en fait, dessinent les tendances des cours d'action. Et il est coutumier.
Il s'est fait botter les fesses d'ailleurs, par la bourse aussi à l'époque de Tesla. On s'en souvient.
Mais pour tout, aujourd'hui, quand on parle avec le patron de Volkswagen, là, ils ouvrent une gigafactory de batteries. Et ils demandent au patron Volkswagen, mais qu'est-ce qui a fait la voiture électrique? Il dit, cherchez pas, c'est Elon Musk. C'est lui qui a lancé, qui a donné un peu toute cette aura. L'espace, là, qui disait rien que l'histoire des.
Des lanceurs qui réatterrissent.
Il a pas inventé un nouvelle fusée qui... Non, il a eu quelques idées pour que ça coûte moins cher, pour des idées de services, alors du tourisme, tous les réseaux de satellites.
À Starlink en Ukraine.
Aller un jour sur Mars. Voilà, il a des idées comme ça. Donc, il a... Moi, je pense pas que ce soit quelqu'un... Enfin, c'est quelqu'un d'impulsif et tout ça, mais c'est avant tout, enfin c'est un homme d'affaires quoi. Alors qui peut peut-être être dépassé par son image, mais voilà, c'est quelqu'un qui a un gros bosseur, qui sait s'entourer. Moi, je dis toujours ça. Hein, il sait toujours les gens autour de lui. Alors effectivement, le jour où ils lui servent plus,
il met la poubelle.
Il va retrouver. Il y a qu'à voir comment ça s'est passé pour SpaceX. Ceux du départ, il y en a très très peu qui sont encore avec lui. N'empêche qu'au départ, il a choisi les bons pour les premiers projets de montage de fusée, des gens qui connaissaient parfaitement comment fonctionnait la NASA, etc., etc., pour aller chercher des financements à la NASA. Le jour où il n'a plus besoin, hop, je les bazarde et je passe à la génération suivante. Ok, on va inventer la nouvelle interface pour la fusée. On va chercher un gars chez Microsoft. La logistique, on va chercher un gars chez BMW. Et puis le jour où il passera à une autre dimension, eh bien il prendra d'autres personnes.
Mais bon. la guerre d'usure dont je vous parlais tout à l'heure, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'il joue avec Twitter. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une déperdition en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de partir et de claquer la porte. Mais en gros, lui, c'est une espèce de techno-darwinisme. Les meilleurs resteront. Ceux qui adhèrent resteront. Et on refera le game et on refera le jeu de Twitter avec ceux qui seront restés.
Vous restez avec nous tous les deux. Dans un instant, je vais vous poser la même question à tous les deux. Comment cette histoire va se terminer? Alors, voilà, on va voir le scénario de Asma et de Frédéric dans un instant. Et puis après, comme il nous reste un petit peu de temps, on reviendra sur l'autre actu, hein, les fameuses Uber Files. On en parle dans une minute. Tech & Co sur BFM Business, à la radio, à la télé. À tout de suite.
Tech & Co, le débrief de la tech.
Voilà le retour de Tech & Co sur BFM Business en direct à la radio, à la télé. Merci d'être avec nous ce soir. Puis surtout à vous qui êtes en vacances. Bonnes vacances, profitez-en bien. Et puis merci de nous regarder, de nous écouter en replay. Le débrief de la Tech de ce lundi 11 juillet avec Asma Mala, spécialiste en tech policy, enseignante à Sciences Po Paris, spécialiste de l'économie numérique, pour commenter donc la décision d'Elon Musk de jeter l'éponge concernant Twitter. Et puis Frédéric Simotel, bien sûr, journaliste tech à BFM Business. Donc, le petit challenge que je vous proposais juste avant cette petite pause, c'est d'imaginer la suite, l'avenir. Comment va se terminer cette histoire ? On est galant, Frédéric. Laissons, donnons la parole à Asma.
C'était pas ce qui était prévu.
Pourquoi pas ? Non, mais si vous voulez, Fred peut commencer. Hein. C'est comme
j'y vais,
vous voulez.
J'y vais. Harakiri. Il est très possible qu'il y ait une renégociation en parallèle du procès.
C'est-à-dire que...
qu'il renégocie le prix parce qu'en fait,
en sous-main, ça va négocier. Ouais. Rappelons que le montant du rachat au départ, c'était 44 milliards de dollars avec une action à 54 dollars à peu près. Là, on est à 34.
Ouais.
D'accord ?
Oui. Moi, je pense à...
Alors, attends, elle n'a pas terminé. Ouais. Donc, ça, en sous-main, ça négocie.
Ça va commencer. Là, pour l'instant, ils ne se parlent pas. C'est extrêmement tendu. C'est la fameuse guerre d'usure et la guerre des nerfs ou la guerre psychologique que Musk a très sciemment lancé. Dès l'instant où le procès va être entamé, il est possible qu'à un moment donné, il y ait un point comme ça de pivot où il renégocie parce que ça sera dans l'intérêt d'absolument tout le monde. En termes d'image, de réputation, de confiance, le marché est irrationnel, le marché fonctionne à la confiance. Or aujourd'hui, Musk est en train de faire un travail de démolition de la confiance et de l'image et de la réputation de Twitter qui n'a aucun intérêt à ce que ça aille jusqu'au bout.
Twitter a réagi en disant « Le conseil d'administration de Twitter a déterminé à faire aboutir cette transaction au prix et selon les termes convenus avec Elon Musk et a l'intention de mener une action en justice pour faire respecter l'accord de fusion. » C'est Brett Taylor, le président du conseil d'administration de Twitter, qui a déclaré ceci. « Nous sommes convaincus que nous l'emporterons devant le tribunal de Delaware. »
Oui, ben, ils ont, je le disais tout à l'heure, ils ont eux aussi embauché leurs avocats qui sont spécialisés dans ces guerres d'usure. Moi, je pense que l'issue,
déjà, ça va être le jackpot pour les avocats. Je ne sais pas pour qui d'autre, mais en tout cas, pour les avocats, c'est pas mal.
L'issue, pour moi, ce sera un rachat. Alors, la seule chose que je ne maîtrise pas bien, parce que j'ai pas connaissance en termes juridiques, comment tout ça va se négocier derrière sur la partie juridique, mais ce dont je suis à peu près persuadé, c'est qu'il va y aller, il finira par racheter. Alors après, il faut voir dans quelles conditions. La négociation juridique qu'il y aura, mais il finira par prendre Twitter. Il ne peut pas sortir de Twitter, ou alors il va continuer à vivre sa carrière avec Tesla, avec SpaceX, peut-être Neuralink, et il va regarder Twitter à côté. Les gens de Twitter, ils se rendent compte que là, c'est l'une de leurs seules issues de sortir aujourd'hui. La bataille est féroce, et puis il va falloir redonner cette partie confiance aux utilisateurs, aux annonceurs aussi, qui vont dire, parce que les gens, ils aiment bien. Le côté Elon Musk, voilà, ça motive, ça amène pas mal de choses. Donc c'est d'ici un Elon Musk, il aura amené ce lot d'innovation, il aura amené ce lot, peut-être trouvé de nouveaux business models, pour Twitter. Voilà, il aurait eu quelques idées derrière tout ça. Il aura encore pu s'entourer des bonnes personnes. D'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'il veut garder aussi les bons. Donc moi, je pense que l'issue, ce sera, ça finira par être racheté. Par contre, même si la guerre d'usure doit durer, ça doit quand même se faire assez vite parce que au bout d'un moment, la valeur Twitter va continuer à descendre. Et si Elon Musk rachète un truc où il se retrouve un peu forcé de le racheter parce qu'il avait dit qu'il le rachetait, il va le racheter un peu cher et il doit réinvestir dedans pour relancer la machine. Il s'est compté. Il a quand même Tesla de l'autre côté qui commence aussi à avoir de sérieux concurrents.
Alors, dans un instant, on va parler des Uber Files, comme promis, mais à votre avis, combien vaut Twitter actuellement ? On est d'accord que ça ne vaut
36
plus... Ça ne vaut plus 54 milliards. Ça ne vaut plus 44 milliards, on est d'accord. Avec la dégringolade des marchés.
Non, c'est pas simplement la dégringolade. C'est-à-dire que l'entreprise a été immobilisée dans sa gouvernance, dans son travail au quotidien, par toute cette polémique, par l'énergie qui est mise autour de ça. Donc, vraiment, la guerre d'usure, ce n'est pas simplement des tweets. Derrière, ça a des impacts extrêmement tangibles, économiques, directs, et la défiance aussi progressive des annonceurs. Or, aujourd'hui, le business model de Twitter, c'est bien la publicité. Donc, y a un vrai sujet là-dessus.
des annonceurs, puis des développeurs, enfin de toutes les équipes aussi. C'est-à-dire, si rachète une coquille où les meilleurs développeurs sont bons, là, il y en a deux, trois patrons qui sont partis, mais c'était des chefs produits, des choses comme ça. Je ne dis pas qu'ils se remplacent facilement, mais voilà, ce n'est pas des personnages clés au sein de Twitter, mais s'il commence à y avoir le noyau un peu de développeurs qui ont toutes les idées, qui sont en train de réfléchir au Twitter dans 5 ans, là, c'est... Bon, après, sur un chat, moi, je pense qu'il va l'avoir à moitié prix.
Alors, ça y est.
Black Friday.
Quand Fred commence à balancer des prix, c'est bien. On est à 44, donc là, on serait dans une vingtaine de milliards, à ton avis.
19-20 milliards, ils vont tomber, ça va chuter, les autres vont être d'accord, les actionnaires vont un peu râler, et lui va s'engager sur quoi ? Il va s'engager à ce que la valeur remonte et à revaloriser, à ce que Twitter reparte vers des sommets, comme il l'a fait avec Tesla, comme il l'a fait avec SpaceX, et voilà, c'est jouer un peu une issue comme ça.
Bon, moi, je me méfie quand même un petit peu des prévisions de Frédéric Simotel, parce qu'il avait prévu, je m'en souviens très bien, prédit que l'iPhone ne marcherait jamais.
Parce que j'étais pro-BlackBerry.
Donc c'est pour ça, non,
alors juste, moi je me fais un dernier scénario. Non, devant l'histoire.
Je dis que iTunes marcherait, mais l'iPhone, voilà.
Mais bien sûr, je te taquine.
Sinon, la dernière option, c'est qu'en effet, il paye le milliard plus un ou deux autres milliards de dommages et intérêts.
Et il sort de l'histoire.
Il sort de l'histoire. Mais ça sera un énorme gâchis.
Et lui, ce sera un échec pour lui. Et là, pour le coup, sa personnalité.
Oui, je pense que. Voilà,
continuer à vivre en regardant Twitter évoluer en se disant ça aurait pu être à moi, ce que j'aurais pu faire. Il va ruminer ça. Enfin, voilà.
Ou alors il reprend Truth Social avec Trump et il en fait quelque chose.
C'est pas gagné ça aussi, tiens, mais c'est un autre débat. Bon, allez, on enchaîne avec cette autre actu, parce que je sais que Asma et Fred, vous vouliez réagir là-dessus. C'est ces fameuses révélations sur ce deal secret entre Uber et Emmanuel Macron à Bercy, avec ces documents internes qui ont été analysés par Le Monde et qui montrent comment, entre 2014 et 2016, Emmanuel Macron, qui était ministre de l'économie, on s'en souvient, a œuvré en coulisses pour Uber, donc cette société de VTC qui était au début en fait de son arrivée en France, notamment, et qui a essayé d'imposer cette dérégulation du marché, qui affrontait à la fois l'hostilité du gouvernement, mais aussi de tout ce secteur du taxi qui, rappelez-vous, était descendu dans la rue à l'époque. Franchement, Asma, quel est votre sentiment sur cette affaire ?
Je ne vais pas entrer, mais très volontairement, dans la petite polémique politicaille sur Macron.
Oui, la boule puante, le dossier boule puante.
Ça n'a aucun intérêt. C'est le fonctionnement depuis la nuit des temps des lobbies. Le lobbying est une activité légale, par ailleurs. Il y en a absolument partout. Dès l'instant où on a des registres transparents, où on a une traçabilité des rendez-vous, etc., ce sont des pratiques. Voilà. Après, on peut ouvrir le débat sur ces pratiques.
Mais ça, c'est autre chose.
Ce sont des pratiques. Voilà. Donc, moi, je n'irai pas sur ce terrain-là qui n'a aucun intérêt. En revanche, il y a deux choses que je retiens, moi, de la séquence. Ou trois, en fait. La première, c'est la question de la co-gouvernance. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a des GAFAM qui sont, ou des big tech qui sont tout aussi puissants que des États et qui ont cette capacité à infiltrer et à faire et à produire de la loi. On l'a vu aussi quand ils ont phagocyté, à un moment donné, le projet de taxation internationale avec l'OCDE, le projet PEBS, ou tout ce qu'ils font aussi à Bruxelles, par exemple.
Donc, c'est-à-dire qu'en sous-main, c'est eux qui décident des lois.
C'est pas des sous-mains, c'est des vraies discussions, c'est des rendez-vous qui ont lieu, c'est des tables de cette table
de négociation. Quand je dis en sous-main, c'est que nous, citoyens, on n'est pas au courant de tout ça, la plupart des
temps. Pour les informés, si, mais pour les non-informés, on est en train de le dire. Bon, là, donc, il y a.
Mais là, c'est a posteriori.
C'est a posteriori. Enfin, non, PEBS, Bruxelles, etc.
Non, je parle d'Uber.
C'est pour ça que j'essaie de prendre un petit peu de hauteur. Donc, dans les pratiques, ça se fait. Un ministre de l'économie reçoit régulièrement l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Aujourd'hui, je pourrais vous dire, les clouders français font énormément de lobbying. De la même façon.
Mais comme on a eu les télécoms...
Comme les cloudeurs américains doivent faire aussi du lobbying.
Absolument. Donc, ce sont des pratiques. Maintenant, la vraie question, c'est la question de la co-gouvernance. Aujourd'hui, est-ce qu'un État, et ça, c'est une discussion politique, est-ce qu'un État doit être un régulateur supramarché ou est-ce que c'est un acteur du marché parmi tant d'autres ? Jusqu'à présent, on était plutôt sur de la co-gouvernance, concept qui a été d'ailleurs présenté par Emmanuel Macron lui-même en 2018, qui parlait déjà de co-gouvernance. Mm-hmm. Donc c'est très intéressant dans la théorie politique, si vous voulez. Et donc on pourrait en revenir. Aujourd'hui, on a un retour des États forts, la guerre en Ukraine, le DSA, etc., montre qu'en fait, il faut peut-être refaire un tout petit peu de ménage là-dedans et remettre chacun à sa place. Et puis le deuxième sujet, qui est le plus important à mon sens, c'est la question de la disruption, non pas du marché, marché, mais social que ça supposait, la subordination, le droit du travail, le droit social, et tout ce que Uber a introduit comme disruption et comme violence sociale. Et d'ailleurs, théorisé par le CEO de Twitter, de Uber lui-même. Uber,
oui.
Voilà, c'est-à-dire le succès par le chaos et par la violence. Une espèce de darwinisme généralisé par la tech. Donc ça pose des questions. La fragilisation, l'individualisation et le détricotage du droit du travail pose un certain nombre de questions. Ça, c'est un fait. Voilà les réactions. Et je pense, si on devait avoir des débats intelligents, où est-ce qu'à mon avis, on devrait les emmener ? Plutôt que Macron a reçu Travis machin.
Ouais, je pense que c'est ça, le débat de l'implication d'Emmanuel Macron, c'est ça.
Oui. Enfin, c'est le cœur de l'histoire, en fait.
Après, le cœur de l'histoire des médias.
Le cœur de l'histoire des médias, bien sûr.
Après, si on voit qu'il a touché de l'argent, tout ça, machin, d'accord.
Ça,
mais
bien
pour l'instant, voilà, ça c'est réglé. L'histoire des lobbyistes, on va pas refaire. Enfin, voilà, où un jour on se décide que le lobbying c'est plus une activité légale, qu'il faut tout revoir, d'accord. Par contre, c'est ça, c'est les deux. Alors, je vais le dire plus avec mes mots. Pour moi, il y a le premier mot, c'est les pratiques à la limite de la légalité d'Uber. Voilà, c'est ça, il faut vraiment en discuter. Et puis le deuxième, c'est comment on casse le monopole dans un secteur. Là, c'était les taxis. Alors, ça a été assez violent. En même temps, on sentait qu'il y avait un besoin aujourd'hui, parce que qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? On voit quand même une meilleure qualité de service du côté des taxis.
G7.
On voit des choses qui ont commencé.
Ça a complètement révolutionné.
G7, c'est parfait, c'est top.
Ça a été un séisme, en fait, pour le secteur des taxis.
Il faut revenir à l'époque. Hein, à l'époque, on était tous très mécontents quand même.
Mais bien sûr.
2011-2014, c'était affreux.
C'est ce qu'il faut voir. Faut voir quand même.
Les cartes bleues étaient tout le temps en panne dans les taxis.
Malgré tout, création d'emplois. On a quand même des créations d'emplois avec des métiers moins qualifiés. Ça a amené des gens à être entrepreneurs, auto-entrepreneurs, ce que l'on veut.
Alors, et évidemment, ça permet
avec une précarité extrême.
Mais c'est ça le pendant.
Mais il y a eu un texte
d'officialiser. Pour certains jeunes qui étaient en situation défavorisée, ça leur a permis peut-être d'avoir.
Au début, c'était la tendance et c'était exactement la promesse.
Après, il y a une officialisation. Du statut de VTC, mais enfin au moins ça fait avancer ces choses. Ça a créé aussi une dynamique sur ce marché-là, parce qu'il y a Uber, il y a Freenow, enfin voilà, ça en a créé d'autres. Donc c'est ce côté-là qu'il faut voir. Et puis on en parlait tout à l'heure, la qualité de service était pas très bonne. Donc c'est plutôt ça, et voir comment ce qui m'a surtout gêné en lisant un peu toutes les enquêtes, tout ce qu'on a pu voir à côté, c'est vraiment la violence avec laquelle Uber a agi. On le savait, Travis Kalanick, en plus on a vu le personnage qu'il était, son caractère, etc. Et on a eu tout un tas d'histoires, et d'ailleurs s'il s'est fait débarquer, c'est bien pour toutes ces histoires. Mais je pense qu'il y aurait plus à regarder un peu comment un acteur tout d'un coup vient disrupter un marché avec cette violence. C'est pas quelqu'un qui arrive comme dans les télécoms où un jour on ouvre le marché et puis on a un opérateur, deux opérateurs, trois opérateurs qui arrivent.
Il y a aussi le fameux kill switch, c'est-à-dire tout d'un coup quand on a une perquisition mais officielle, légale, en fait ils coupent tous les accès à la data, au serveur. C'était une entreprise qui était sincèrement voyou. Il faut mettre les mots.
Le sujet il est plus autour de ça. Et puis comment on vient casser un monopole. Tant mieux, mais pas au détriment de travailleurs. Bon.
Et après, cela dit, il y avait quand même une convergence entre la vision d'Emmanuel Macron à l'époque, la Startup Nation, avec cette vision-là, faut dire. Donc, quand ils cherchent des relais d'opinion ou des relais politiques, ils ne cherchent pas n'importe qui, ils cherchent des gens qui ont une convergence de vision quand même.
Quand on arrive à dresser un peu l'oreille du politique en lui parlant innovation, nouveau business model, création d'emplois, les politiques, ils écoutent. Après, à eux de creuser.
La mise en œuvre.
Et comme souvent, quand on va creuser, le politique il est peut-être resté un peu trop en surface parfois, et il aurait regardé un peu plus en profondeur, il s'y serait un peu plus attelé, il aurait un peu plus fait attention.
Si vous avez le temps pendant les vacances, je vous invite à regarder cette série Super Pumped qui raconte en fait l'histoire du créateur d'Uber jusqu'à la déchéance, enfin, etc. Ouais. C'est plutôt bien fait. Franchement, si vous avez le temps cet été, faites-vous cette série, vous ne le regretterez pas. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Asma.
Merci.
Vous revenez dans Tech & Co bientôt, j'espère.
Quand vous voulez.
Quand vous voulez, pour débriefer l'actu.
Merci.
Vous serez la bienvenue, spécialiste en tech policier, enseignante à Sciences Po Paris. Et merci Fred. Toi, tu viens quand tu veux, t'es chez toi. Donc, demain,
tu viens par exemple. Twitter n'appartient pas à Elon Musk, je reviendrai.
Tu reviendras, tout ça. Et vous restez avec nous, il est bientôt 21h30, le journal de Faiza Younsi. Et on revient bien sûr pour notre plongée dans Station F, comme chaque lundi soir. A tout de suite.
Tech & Co, les pépites de Station F.
Voilà, Tech & Co, avec notre rendez-vous Station F. On fêtait les 50 Station F la semaine dernière avec Roxane Varza, qui était avec nous sur le plateau de Tech & Co. Et on poursuit, bien évidemment, cette découverte de cet incroyable incubateur qui, rappelons-le, accueille plus de 1000 startups. Ce soir, on va parler de VR et de AR. D'un côté, la réalité virtuelle, mais aussi la réalité augmentée. On a un vrai savoir-faire dans ce domaine. On en parle souvent dans Tech & Co. Tiens, deux startups qui sont présentes à Station F et qui sont dans ce domaine. Emmanuelle Roger, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes cofondatrice d'Immersive.io. Et puis Hervé Nivon est avec nous aussi. Bonsoir, bonsoir Hervé.
Bonsoir.
Cofondateur de Scénario. Alors tous les deux, alors pour Emmanuelle, vous étiez à Station F, vous venez de partir.
Exactement.
Voilà, après 3 ans de présence dans cet incubateur, ça s'est plutôt bien passé. Maintenant vous voulez de vos propres ailes.
Exactement, ça fait plusieurs mois. Maintenant, on a quitté l'Halle Fraissinet pour nous installer dans le quartier du Sentier. Et on est très heureux de ces 3 années qu'on a passées au sein de Station F.
Très bien. Et puis alors vous, Hervé, vous y êtes, oui. Vous y êtes encore.
Tout à fait. Nous avons 2 personnes full-time à Station F, mais nous sommes remote first. Nous avons 13 employés dans 7 villes sur 3 continents, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Europe. Très bien. Station F nous aide à rassembler tout le monde. Nous y étions la semaine dernière.
Parfait. Alors, tout ce qui est réalité virtuelle et réalité augmentée, c'est vraiment un sujet en plus très à la mode. On peut remercier Mark Zuckerberg de mettre ça un petit peu... Enfin, remercier ou pas d'ailleurs. Tiens, je vais vous poser la question. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt positif tout ça ou pas? Mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup avec ce fameux métavers et toute la vision un peu de science-fiction de Mark Zuckerberg. Ça vous sert ou pas, cette mise en avant du métavers depuis quelques mois, depuis les annonces de Meta ou pas? Sincèrement, Emmanuel?
Ah oui, très clairement, je pense que ça contribue à démocratiser la notion des technologies immersives en général, que ce soit l'AR ou la VR, et ça contribue à créer un momentum sur le marché qu'on attend un petit peu depuis quelques années. Donc moi je pense que c'est très positif, forcément ça peut aussi attirer des détracteurs, mais pour la connaissance en fait du secteur, je pense que c'est quelque chose de très positif.
Hervé, d'accord avec Emmanuel?
Oui, tout à fait, l'évangélisation est un point extrêmement important dans nos domaines et ça a été un vrai coup de pouce l'an dernier quand Mark Zuckerberg a annoncé Horizon Meta, l'évangélisation des expériences immersives, l'évangélisation de la réalité virtuelle. Bah, nous ça nous a fait gagner du temps avec les investisseurs.
Après, est-ce que vous n'avez pas peur de tous ces projets, parfois un peu plus farfelus les uns que les autres, qui tournent autour de ce fameux Web 3, de ce métavers, dont on sait que 95% vont passer à la poubelle, forcément. Ça ne peut pas vous desservir, justement, cette montée en puissance de cette popularité avec tous les travers qu'on connaît, le marketing, la com, et toutes les boîtes qui s'emparent de tout ça?
Il faut bien distinguer Web3 et Metaverse. Metaverse, c'est une définition assez assez claire. C'est un contenu collaboratif, immersif, en 3D, et permanent, persistant. C'est-à-dire qu'on peut y retourner, on va retrouver les mêmes choses. Le Web3, ce sont des technologies, notamment la blockchain,
qui les NFT, etc.
Exactement, les NFT, les tokens, qui permettent, qui pourraient permettre de fournir les technologies au Metaverse. Mais ce n'est pas forcément nécessaire.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux, pour vous, il y a deux bulles. Oui. Il y a le métavers d'un côté, qui n'est pas forcément associé au Web3.
Non, pas forcément, exactement.
Pourtant, certains disent que ce métavers, c'est un nouvel Internet, en quelque sorte.
Et ça peut être une définition. Si on simplifie, le métavers, c'est l'Internet en 3D. Tout est accessible en 3 dimensions. Et on peut voir le métavers avec une idée qu'on se fait, qui est la réalité virtuelle. Mais sinon, ça peut être la réalité mixte, comme le propose Niantic, avec le métaverse physique, avec le real world métaverse, où on imprime en réalité augmentée les informations en 3 dimensions, mais les deux se nourrissent l'une de l'autre.
D'accord. Emmanuel,
oui.
sur cette crainte d'utiliser la sauce métavers un peu partout, j'ai vu qu'il y avait même des choupis maintenant. Alors ça, c'est pas le métavers, mais en NFT.
Bah oui, des choupis, des monkeys.
Voilà. Bon.
Mais je pense que l'intervention de Hervé est très claire là-dessus. Faut bien distinguer tout ce qui est NFT et métaverse. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est aussi un buzzword, le métaverse, sur lequel on peut mettre un peu tout et n'importe quoi, mais justement, il y aura un tri qui se fera entre les vrais services de réalité virtuelle, de réalité augmentée, qui permettent d'accéder à ces nouveaux mondes, et peut-être les effets un petit peu marketing ou communication qu'il y a autour.
Voilà, et vous, ça fait 6 ans que vous existez, donc vous savez de quoi vous parlez, hein. Vous n'avez pas attendu que Mark Zuckerberg se lance là-dedans pour montrer ce que vous savez faire. Alors, la mission d'immersive.io, c'est mettre la réalité augmentée au service des fans pour améliorer leur expérience des matchs en direct, qu'ils soient en fait dans un stade ou chez eux, à leur domicile, c'est ça ?
Exactement.
Ouais, alors expliquez-nous.
Donc concrètement, nous, on est vraiment spécialisés pour le coup sur la réalité augmentée. Et donc c'est une technologie, comme vous venez de le dire, qu'on met au service du fan. Et on lui propose une toute nouvelle façon de regarder les matchs en direct, au stade ou à la maison. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on vient intégrer des données statistiques en temps réel à même l'action, à même le spectacle sportif, pour qu'il décrypte un petit peu mieux ce qui se passe dans le match et comprenne les enjeux qui sont sous-jacents aux différentes actions. Et donc, si je donne un exemple concret, en fait, nous, on est parti du constat suivant. Quand on est au stade, on a beaucoup moins d'informations que quand on regarde le match à la maison tranquillement sur son canapé, parce qu'on n'a pas les informations.
On peut qu'on soit loin, on n'arrive même pas à voir les joueurs. Enfin bon, c'est peut-être parfois.
Oui, et puis on n'a pas les informations des commentateurs à la télé, on n'a pas les graphiques qui sont incrustés dans les flux vidéo.
Alors même si certains organisateurs de matchs et certains propriétaires de stades font des efforts pour avoir des applis qui sont liées en fait à ce qui se passe, pour même avoir des replays. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. On peut avoir des replays de certains matchs en étant dans le stade avec son smartphone, par exemple.
Exactement, c'est ce que propose notamment la startup Vogo, qui est une startup française. Et donc nous, en fait, ce qu'on vient faire, c'est avec la réalité augmentée, on est capable de venir afficher ces informations à même le terrain, et donc proposer une expérience plus immersive pour les fans. Concrètement, si je prends l'exemple du football, je vais pouvoir en tant que fan sélectionner un joueur pour suivre sa performance tout au long du match. Donc je vais pouvoir en temps réel voir sa vitesse, ses possibilités de passe, ses chances de marquer, etc. Et ça, c'est vraiment une expérience que je vais personnaliser en fonction de ce qui m'intéresse, et donc je vais afficher ces informations à même le joueur en direct pendant le match.
Alors je vais enrichir en fait simplement ce que je suis en train de voir.
Exactement, tout. Et tout dans mon champ de vision. Ces informations, elles sont là où je regarde le match, et c'est disponible soit au travers de lunettes de réalité augmentée, soit au travers de son smartphone.
Voilà. Alors le top, c'est la paire de lunettes, on est d'accord, parce que le smartphone, bon, il faut tenir le smartphone et de temps en temps regarder, en fait, pointer le stade, hein, c'est ce qu'on voit derrière vous. Si vous êtes avec nous à la télé, hein, c'est un match de quoi
de Bundesliga.
Voilà, de Bundesliga. Mm-hmm. Et donc là, voilà, c'est moins pratique, on va dire. L'idéal, c'est ça, c'est des lunettes de réalité augmentée, en fait.
Exactement. En tout cas, l'expérience ultime, nous, on la voit sur une lunette de réalité augmentée. Mais aujourd'hui, on a tous un téléphone dans sa poche, donc on peut déjà proposer aux fans qui ont moins d'informations au stade d'avoir accès ponctuellement à ces informations pour améliorer l'expérience sur site. Et donc les lunettes de réalité augmentée, elles arrivent aujourd'hui sur le marché, elles commencent tout juste à être commercialisées pour le grand public, et on sait que tous les géants de la tech, Meta, Google, Apple, Snapchat, travaillent sur leurs propres lunettes. On attend avec impatience la sortie de leurs lunettes, et notamment celle de Apple, avec un peu de chance, en début d'année prochaine.
Oui, vous attendez en fait que les géants du hardware vous donnent votre outil, en fait, l'outil ultime.
Exactement. En tout cas, ça commence d'ores et déjà à être commercialisé, notamment par une société qui s'appelle Enreal. Donc c'est déjà accessible pour tout un chacun. Mais on est convaincu que Apple, notamment, sera un driver de l'adoption des lunettes pour le grand public.
Vous, votre objectif, c'est de jouer la montre, en quelque sorte. Vous teniez jusqu'à ce qu'il y ait le killer hardware qui sorte pour faire exploser en fait ce que vous faites. On est d'accord ?
Alors, donc, encore une fois, aujourd'hui, sur mobile...
Oui, avec le smartphone, ça marche, mais c'est vrai que, puisqu'on parle de réalité augmentée, elle est tellement augmentée avec une paire de lunettes que ça change tout, quoi.
C'est sûr, et en tout cas, on a développé également une solution pour les fans à la maison, qu'on pense d'abord sur lunettes. Et donc, quand on a ses lunettes chez soi, quand on regarde un match, en fait, on a un écran géant télé virtuel qu'on positionne où on veut, et à côté de ça, on va être capable, nous, de reproduire le match ou l'événement sportif sur une carte 3D en temps réel. C'est ce qu'on a fait récemment avec Orange et le Tour de France. Donc, pendant le Tour de France, je regarde mon étape, ma course, donc je la vois en réalité augmentée. Ouais. Et ensuite, j'ai une carte 3D de l'étape avec laquelle je vais pouvoir interagir, je vais pouvoir zoomer.
On a des images derrière.
Et en temps réel, je vois la position des cyclistes, je vois la position des différents groupes, je peux comparer leur temps, etc. Et surtout, ça me donne cette vision globale que je n'ai pas quand je regarde la télé, puisque on est toujours concentré sur certaines portions des étapes.
À votre avis, ces lunettes de réalité augmentée vont se populariser quand ?
Eh bien, donc...
Apple, mais quand ? À votre avis.
Donc, je pense qu'il y a un premier effet à la sortie des lunettes d'Apple qu'on espère début d'année prochaine, à horizon 3 ans, une adoption un peu plus généralisée.
Un peu plus, on va dire, grand public, parce qu'on n'a pas encore le prix de ce type d'appareil.
Oui, c'est sûr. La deuxième génération sera certainement moins chère.
C'est ça qui risque de calmer tout le monde. Hervé, vous êtes d'accord avec ce calendrier ou pas ?
Ah, je ne me risquerai pas un pari ce soir. Non, ça fait
quand on
ans.
Écoute Mark Zuckerberg, pour lui, c'est entre 5 et 10 ans, hein, quand même. Hein. La miniaturisation et
Il faut distinguer la disponibilité des lunettes, qui sont déjà disponibles. Par exemple, Snapchat a sorti les siennes il y a quelques mois. Et la démocratisation grand public, comme on connaît aujourd'hui avec les téléphones. Et là, on parle d'horizons de temps qui sont complètement différents. Mais si on en revient au sujet initial, on parlait d'Internet en trois dimensions. Ce qu'il faut d'abord, c'est produire le contenu. Et donc, il faut des entreprises comme Immersive ou comme la nôtre qui permettent à...
Alors vous, vous êtes cofondateur de Scénario. Tout à fait. Voilà, c'est ça.
Nous, Scénario, c'est une application mobile qui permet à tout le monde de créer des expériences 3D immersives à partir d'objets fournis par la communauté ou qu'ils peuvent scanner eux-mêmes dans leur environnement. Par exemple, un jouet ici, on voit un Funko Pop... digitalisé, placé dans une scène disco pour le faire danser. Donc ça peut paraître désuet comme ça, mais l'idée c'est que aujourd'hui, l'internet en 3D n'a du contenu qui est fourni que par les plateformes, par Meta, par Niantic, par les autres, alors que nous, on replace l'utilisateur au centre de ces métaverses pour leur permettre de créer du contenu 3D. Ce qui est quasiment impossible aujourd'hui si on n'est pas un expert.
Alors attendez, expliquez-moi comment ça marche, votre petit gâteau là. Comment je pourrais le transposer dans la VR alors qu'il existe vraiment ?
Très simplement, avec votre téléphone, vous tournez autour.
Via une appli que vous avez développée.
Via l'appli qui est disponible depuis un mois sur l'Apple Store, d'abord sur iOS, puis dans quelques temps sur Android.
D'accord. Qui
s'appelle Scénario.
D'accord. On peut la télécharger sur l'App Store.
Vous pouvez la télécharger. Scénario Play with Reality. Vous allez trouver tout de suite cette application. Vous tournez autour de l'objet. Ça le digitalise, ça le met en trois dimensions. Et après, vous pouvez jouer avec, comme ici, le placer dans une situation un peu rigolote. Ou alors aller collaborer avec d'autres utilisateurs à travers le monde pour aller combiner des objets ensemble, créer des scènes, des mini-films ou des expériences. Ça peut prendre la forme d'un jeu ou d'une expérience contemplative.
Mais je peux tout numériser ? Je peux numériser Emmanuel si je veux.
Vous pouvez numériser
un mug, mon PC, mon smartphone,
un mug,
micro,
PC,
là.
Le plateau. Votre fils.
D'accord.
Votre femme, n'importe qui. Oui, vous pouvez tout numériser. Alors, il y a quelques objets qui ont encore quelques difficultés. Et pour ce faire,
avec un degré de précision bluffant. Là, on voit un visage derrière vous. Si par exemple, je vous scanne avec l'appli Scénario, je pourrais vraiment vous reconnaître.
Ah oui, vous pouvez me reconnaître.
D'accord.
Donc, c'est une précision
photographique.
C'est comme une photo en trois dimensions. D'accord. Exactement. Après, on joue pas sur la précision. Nous, c'est plutôt, vous voyez, l'Instagram de la 3D ou le TikTok de la 3D. C'est-à-dire que on s'adresse à tout le monde, tous les utilisateurs ayant un téléphone peuvent digitaliser n'importe quel objet. Des objets qui présentent aujourd'hui plus de difficultés, c'est le champ de recherche, notamment avec de l'intelligence artificielle. On œuvre énormément pour permettre de digitaliser le plus de choses possible. Mais vous pouvez avoir à créer n'importe quelle expérience interactive aujourd'hui en l'état avec votre téléphone.
Alors, vous êtes 13 collaborateurs plus 3 cofondateurs.
Tout à fait.
C'est ça. Vous êtes basé dans 7 villes différentes, en Amérique et en Europe. Vous avez plus d'un millier d'utilisateurs qui ont testé donc la...
J'aimerais... Non, on a...
Alors, attendez.
Ah non, 1 million, j'ai compris. Non, pardon.
Un millier,
excuse-moi. Ah. Oui, tout à fait. Oui.
Qui teste cette appli qui est disponible d'ores et déjà.
Depuis un mois.
Et en 2 minutes, je peux scanner mon objet.
En 2 minutes, vous pouvez scanner
mais
votre objet.
Mais est-ce que je peux après l'animer, cet objet-là ?
Ah, on a beaucoup...
Parce que j'adorerais pouvoir animer un Hervé Nivon, le faire
danser.
Bouger comme j'ai envie.
Alors, aujourd'hui, on a...
Est-ce que c'est in fine, c'est l'objectif ou pas ?
L'objectif, c'est de... Notre ambition fondamentale, c'est de permettre à tout le monde de recréer la magie de Pixar avec Toy Story. C'est vous pouvez, vous, enfant ou adulte, toujours enfant, recréer la magie de Pixar et donc réanimer. C'est faire des mini-films interactifs depuis
donc,
votre téléphone.
On est d'accord que l'idée, c'est de scanner un objet et puis après de l'animer, en fait, lui donner vie.
Oui.
Aujourd'hui, c'est pas possible.
Aujourd'hui, c'est possible, mais on a quelques difficultés. Par exemple, si vous scannez un objet qui a 8 pattes, ça va être compliqué, ça marchera pas. Donc, il faut. On a encore des projets de recherche, mais on sort des versions tous les mois, voire plus en bêta. Et donc, restez connectés, restez sur scénario.
Restez fidèles. Faites les mises à jour.
Faites les mises à jour, bien sûr. Oui.
Top. Merci beaucoup à tous les deux. Voilà, hein, encore l'excellence dans ce domaine-là. C'est vrai qu'on a un vrai savoir-faire hein, dans la VR en France. Hein.
À la fois dans les, on n'a pas parlé, mais les technologies du jeu vidéo que nous on utilise beaucoup sont indispensables pour ce domaine-là. On a un vrai savoir-faire en France.
Merci beaucoup à tous les deux, Emmanuel Roger, cofondatrice d'Immersive.io. Merci. Et Hervé Nivon, donc cofondateur de Scénario.
Merci bien.
Et c'est avec cette plongée dans Station F que se termine ce Tech & Co ce soir. Merci encore une fois de nous avoir suivis. C'était un vrai plaisir que de vous accompagner pendant ces deux heures. Le podcast de Tech & Co vous attend dans quelques minutes. La rediff débute dans un instant sur la chaîne Tech & Co sur les box opérateurs. Et on sera là, bien sûr, en direct dès 20h demain. Salut à tous et à demain.